Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'Un jour dans le monde nous emmène au Mexique ce soir auprès de la Vierge de Guadalupe et le pèlerinage vers elle a commencé début décembre. Les festivités, elles se terminent le 6 janvier avec les rois, mais vous comprendrez surtout comment cette Vierge représente bien plus qu'une croyance, c'est aussi le symbole de la naissance du Mexique et de ce pays. 18h40, Trump saison 2 et Marco Voltaire, on ramassera quelques-uns des tweets de l'année ensemble et vous verrez comment Trump a sauvé, dit-il, le Merry Christmas. 18h45, Eva Bétan, I'm not a witch, je ne suis pas une sorcière, c'est le film du jour. 18h55, l'édito du journal Le Monde avec Sylvie Kaufmann, avec un 2017, l'année du MeToo, nous dira Sylvie, l'année des femmes. Mais tout de suite, et en partenariat avec Courrier International, nous faisons le tour ensemble de ce qui fera sans doute l'année 2018, Donald, Kim, Vladimir et les autres. Le Monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Éric Scholl.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction de Courrier International. Éric Scholl, en même temps que je réfléchissais à ce qu'on allait pouvoir mettre en avant pour l'année internationale à venir, en lisant ce numéro spécial donc de Courrier avec The Economist, puisque vous publiez la version française de The Economist, je me disais qu'il faudrait quand même essayer de trouver quelque chose d'un peu positif. Et on y viendra, c'est promis, parce que tout n'est pas rose. 2017 n'a pas été, il n'y a pas de raison que ça se passe pareil en 2018, hélas. L'homme de l'année, l'homme de 2018, ce sera probablement celui-là et c'est avec lui qu'on commence.
Merci à vous pour la soutien. Je vais déléguer votre candidature à la fonction de président de la Russie fédérale.
Vladimir Poutine, donc, dans cette séquence qui annonce sa candidature pour 2018. Éric Scholl, on sait depuis quelques jours que Alexei Navalny, son principal opposant, n'a pas le droit de se présenter. Donc, ça se passe dans un fauteuil. Le maître du monde, c'est lui.
C'est une sorte de couronnement attendu pour le 18 mars prochain. Presque sans surprise, quatrième mandat, une sorte de consécration. Et en même temps, pour Vladimir Poutine, rien n'est fait, même si son élection va être certainement, sans doute, encore plus confortable que la précédente en 2012, il va falloir déjà préparer l'après Poutine, ou alors il continue à s'accrocher, mais on a du mal à y penser. Or, il n'y a plus d'opposants, il y a un pays qui n'est pas dans une situation économique aussi flamboyante qu'il paraît. Alors, il y a des chiffres un peu trompeurs, c'est celui en particulier de sa popularité, puisqu'il reste très populaire, avec plus de 80% de popularité, mais au fond, vous savez, il a pris un virage depuis quelques années ultra conservateur et très nationaliste, et sur cette fibre nationaliste qu'il assoit sa popularité.
Et c'est ça, c'est l'image d'une Russie forte hein, qui maintient Poutine au pouvoir dans une économie, une croissance qui sont faibles, un pré-pétrole qui décolle pas. Dans votre journal, il y a une tribune de Navalny, à l'époque il était en prison, et il l'écrit et il dit que peut-être une jeunesse peut pousser vers un renversement, notamment parce que l'économie va mal. Est-ce que ça vous paraît plausible?
Oui, parce que cette jeunesse, c'est une jeunesse qui n'a fait que connaître Poutine. Elle n'a connu comme dirigeant
25
que,
ans, hein,
que Vladimir 25 Poutine. Ans. Et au fond, elle n'a pas connu ce qui existait auparavant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su, elle n'a pas connu ces années 80, ce délitement de l'économie. Elle a connu Poutine et aujourd'hui elle est sans illusion, cette jeunesse. Elle n'a rien pour espérer et donc on a bien vu depuis un an particulier en 2017 ces grands rassemblements, pas seulement d'ailleurs uniquement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, dans toute la Russie, dans toutes les petites villes de Russie, des rassemblements organisés par les mouvements montés par Alexei Navalny et pourtant en dépit des très fortes répressions, mais des rassemblements qui permis notamment grâce aux réseaux sociaux, parce que Navalny n'a pas le droit du tout aux médias, disons, classiques.
Mais ça veut dire que c'est, vous le disiez, l'après-Poutine que Poutine prépare en fait dans cette nouvelle élection. Il y a du monde derrière lui. Est-ce que ça a été un peu la politique de la terre brûlée quand même?
Non, il n'y a pas grand monde parce que si vous voulez, après tant d'années au pouvoir, il a fini par user même ses plus proches, même ses entourages. Et puis il a certaines paranoïas dans son exercice de pouvoir et donc il s'est séparé de beaucoup de gens autour de lui. Et il est très difficile. Les opposants n'existent pas ou alors c'est les opposants de pacotille. Donc il est très difficile
mais
aujourd'hui.
Mais y compris dans son camp, y compris dans son camp,
on ne voit pas. Il a bien des conseillers idéologiques, mais on ne voit pas qui aujourd'hui pourrait prendre la suite. En tout cas, c'est encore trop tôt.
Alors après Poutine, j'allais dire le rock Poutine, en tout cas la stabilité telle qu'il l'entend lui, il y a deux enfants terribles qui ont secoué l'actualité 2017 et qu'on verra forcément en 2018. Et le premier, c'est lui.
영국이 울리는 가운데 조선노동당 위원장이시며 조선민주 국무위원회 위원장이시며
Voilà, on est évidemment, vous l'avez deviné, en Corée du Nord. Ça, c'est la célébration du premier tir de missile. Un président Kim Jong-un qui a bien secoué le monde avec ses essais. Probablement, Eric Scholl, que 2018 verra aussi la même chose, peut-être même en montrant qu'il peut aller encore plus loin, voire atteindre les États-Unis.
Oui, c'est son projet. Et en ce sens-là, il est sans doute dangereux, mais certainement pas fou. C'est ce que nous dit The Economist. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence dans cette stratégie nucléaire, balistique et nucléaire de la Corée du Nord. Cette cohérence, c'est devenir une vraie puissance nucléaire pour pouvoir effectivement résister, pouvoir éviter un jour une attaque américaine. Et dans ce sens-là, Kim Jong-un va continuer jusqu'à avoir cette certitude d'être devenu une puissance nucléaire et peut-être de pouvoir engager les États-Unis dans une sorte de compromis, dans une sorte de négociation. Mais d'une certaine façon, il joue avec le feu parce qu'en face, on a un personnage aussi imprévisible.
Alors, et on va y venir dans un instant, le papier de The Economist que vous publiez suggère que ni la Russie, ni la Chine, encore moins la Chine, ne sont finalement capables de tenir la Corée du Nord à distance. Et pourtant, la Chine a voté un certain nombre de sanctions, ce qu'elle n'avait pas fait précédemment.
C'est un tournant, c'est un changement, parce que cet allié devenait de plus en plus encombrant pour Pékin. Alors, on ne peut pas parler encore d'hostilité entre Pyongyang et Pékin, mais une grande méfiance. Pour la Chine voit d'un côté Pyongyang imagine très mal la Corée du Nord disparaître, en tout cas tomber à une sorte de réunification avec la Corée du Sud, parce qu'il n'y aurait plus qu'une Corée qui serait pro-américaine. Ça, c'est pas possible. Donc pour la Chine, il faut à tout prix entretenir cette Corée du Nord, la maintenir, lui accorder des subventions, mais pas justement plus à tout prix. Donc il faut essayer de limiter quand même les dégâts sur le plan nucléaire notamment.
Alors justement, en face, il y a, j'allais dire, vous l'avez cité, il y a l'autre enfant, et c'est lui.
It is a profound honor to stand here in my home city as a representative of the American people.
Voilà, je dis l'autre enfant parce qu'effectivement, vous le disiez, garçon imprévisible s'il en est, ce qu'on entend là, c'est sa première intervention à la tribune des Nations Unies. C'est là qu'il dira pour la première fois Rocketman. C'est là qu'il surnomme Kim Jong-un.
Voilà, le petit homme fusée.
Le petit homme fusée, effectivement. Alors, un Trump, quand même, qui termine l'année sur une victoire au Congrès, sa réforme fiscale, etc., mais qu'il y a des élections en 2018, des élections en mi-mandat, et ça va être important à suivre.
Oui, et d'ailleurs, il n'est pas sûr que cette victoire qu'il vient d'obtenir sur sa réforme fiscale va beaucoup l'aider dans les prochaines élections, donc de mi-mandat. Pourquoi ? Parce que son propre camp, le camp des Républicains, s'est divisé sur cette réforme fiscale. Parce que une partie des Républicains n'accepte pas l'idée d'avoir de creuser les déficits. Et cette propre division au sein du camp républicain risque de peser lourd dans la balance l'année prochaine, au mois de novembre, en 2018, lorsqu'il y aura ces élections de mi-mandat. Ça avait déjà été le cas pour plusieurs de ses prédécesseurs qui ont perdu les élections de mi-mandat. Ça a été le cas de
très souvent. En général, on perd les premières élections à mi-mandat.
Et donc, et là, on a vu d'ailleurs récemment une élection importante, même si elle n'est que partielle, dans l'Alabama. On a vu le candidat républicain soutenu par Roy Moore, qui était beaucoup de...
Qui était
un candidat
sexuel,
un peu
etc.
sulfureux, mais qui avait été quand même soutenu par Donald Trump. Eh bien, il a perdu dans une circonscription qui avait toujours été républicaine depuis très longtemps. Donc là, cette victoire démocrate peut redonner de l'élan pour les démocrates, à condition peut-être quand même de trouver des candidats, un programme, parce que là encore, il ne s'est pas passé grand-chose finalement depuis l'an dernier du côté des démocrates. On a eu beaucoup de mal à remonter la pente, à se remettre de cette défaite d'Hillary Clinton, et c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui reconstruire pour les démocrates.
Avec un Trump qui garde une popularité importante, en tout cas le socle, il existe toujours, il s'émousse un peu parfois, mais le socle est encore là quand même.
Dans son camp, disons, dans sa base électorale, oui, il reste, il n'a pas encore déçu sa base électorale. Pourtant, si on regarde de près, la plupart de ses mesures ne sont pas, ne bénéficient pas nécessairement à ceux qui ont voté pour lui.
À commencer par la réforme fiscale, d'ailleurs.
Bien sûr, qui va profiter largement, disons, aux plus hauts revenus, aux riches. Mais ce populisme, cette démagogie permanente qu'il exerce, eh bien, continue en tout cas à lui apporter les suffrages ou le soutien de cette base électorale. Oui.
Alors, autre pays, Eric Scholl, autre question, avant de revenir d'ailleurs vers l'Europe, et vous allez évidemment reconnaître cette voix.
There was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons. We gave up our arsenal a few years ago. 100% for us, it's fabrication. We don't know whether those dead children...
Voilà, c'est Bachar el-Assad évidemment qui parle, qui explique qu'il n'y a aucune arme chimique, qui nie chacun des crimes qui lui sont reprochés. Je voudrais qu'on le prenne par ce bout-là. 2017, c'était la fin de Daesh, en tout cas la fin militaire, c'est comme ça qu'on va le dire. Le gros risque maintenant, autour de la Syrie, autour de Bachar el-Assad, c'est se disputer les dépouilles de cette guerre-là.
On arrive là effectivement à la fin de ce califat qui avait été implanté entre la Syrie et l'Irak, donc la fin de Daesh, en Syrie avec toujours aujourd'hui aux commandes et plus fort finalement que jamais Bachar el-Assad, lui qu'on avait, à qui on avait promis une fin il y a 3 ans, 4 ans, et qui est toujours là, et il sort victorieux grâce à ses parrains,
à son ami
grâce
Vladimir.
À l'Iran, grâce à Vladimir Poutine, et qui va devoir, qui va vouloir compter. Et en fait, c'est ça, c'est cette fin de ce califat va ne va pas se faire très facilement. C'est-à-dire qu'elle va attiser les conflits locaux. Elle va réanimer des tensions entre tous ceux qui ont participé à ces combats, et en particulier les Kurdes, et en particulier le Hezbollah qui a soutenu, et le Hezbollah donc très proche des Iraniens, qui a soutenu évidemment l'armée syrienne dans ces combats.
Un œil sur les Kurdes, un œil sur les Hezbollah. Effectivement, vous le disiez, on avance très vite et on survole au fil de ce monde. En 2018, courrier international The Economist. Voici un homme que je voudrais que vous écoutiez.
L'Europe, contrairement à ce qui est dit, n'est pas une forteresse et ne doit jamais le devenir. L'Europe est et restera le continent de la solidarité où doivent pouvoir trouver refuge ceux qui sont poursuivis pour des raisons inacceptables.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, c'est un discours très récent. Ce qui est frappant en 2017, Eric Scholl, et ce le sera tout autant en 2018, c'est l'arrivée de l'extrême droite en Allemagne au Bundestag. C'est l'entrée au gouvernement de l'extrême droite en Autriche. C'est la Hongrie, c'est la Pologne, avec cette question, jusqu'où iront-ils dans le bras de fer qui reste en Europe, qui est sur la question des migrants.
Parce qu'effectivement, c'est cette question migratoire qui agite, qui bouscule totalement les échiquiers politiques dans la plupart de ces pays. Et elle est très loin d'être réglée. D'ailleurs, on l'a vu au mois de décembre avec le dernier sommet européen qui a remis en 2018 une décision. Donc on entend Jean-Claude Juncker parler de solidarité. En réalité, l'Europe est incapable aujourd'hui d'assurer cette solidarité.
Et on est presque à la fronde, celle de la Pologne, celle de la Hongrie.
On a tous ces pays de l'Est, effectivement. On avait ce groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad, auquel maintenant il faut ajouter l'Autriche. Et c'est quand même assez grave parce que cette Autriche va quand même prendre la présidence de l'Union européenne à partir de juillet 2018. On va voir comment elle va s'en sortir.
C'est toujours intéressant, justement, quand on lit ça et quand on voit l'œil de The Economist, donc l'œil de l'étranger qui décrit une Europe en train de se déliter, quand même, à bien des égards, qui nous parle aussi du Brexit, évidemment, qui nous parle aussi de l'Espagne, qui montre une certaine fascination, et c'est intéressant, pour Emmanuel Macron, en revanche, qu'il voit, eux, comme ayant pris la tête, en fait, de l'autre Europe, de l'Europe qui reste, de la nôtre.
Oui, vous n'aurez pas échappé que The Economist a ce côté un peu libéral. Et libéral, d'ailleurs, dans tous les sens, aussi sur le plan économique et politique, et effectivement, alors, retrouve dans Emmanuel Macron beaucoup de valeurs qu'elle aimerait voir se répandre partout ailleurs en Europe. Et elle en a fait un peu son héros pour cette année 2017.
Éric Scholl, j'avais promis tout à l'heure qu'on essaierait d'être un peu optimiste quand même. Et j'ai appris en vous lisant, en lisant The Economist et Courrier International, que les gouvernements britanniques et français tentaient de trouver le moyen de mesurer le bonheur. Est-ce que c'est pas formidable?
Bah écoutez, il y a 10 ans, on a eu la crise économique et financière. Ça a été le moment où on s'est tous dit il faut essayer de développer le bonheur. Et donc, les économistes s'y sont mis. Et vous savez, il y a un pays qui est en avance pour ça, et c'est le Bhoutan, parce que ça fait des années et des décennies qu'il a mis en place le bonheur national brut. Et alors, en 2018, le Premier ministre du Bhoutan, qui accorde, donc, dans ce supplément de vie économiste, qui accorde un grand entretien, enfin plutôt une grande tribune, explique qu'ils vont vouloir étendre cette notion du bonheur aux entreprises en mettant en place une certification en fait du bonheur pour les entreprises. Et ça va se traduire, alors il y aura beaucoup d'indicateurs, mais ça permettra à la fois un classement et ça permettra, notamment pour les entreprises qui investissent dans le bonheur collectif, d'avoir des allègements d'impôts.
Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt que les Chinois en ce moment sont bien plus heureux, nous les Européens beaucoup moins en fait.
Si on prend les pays d'Europe du Nord, on les trouve quand même en tête du classement, mais c'est toujours les mêmes pays effectivement.
Bien, il y a ce passage aussi que je livre à votre sagacité. Une étude réalisée en 2015 par George Ward du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, révèle que les électeurs heureux ont tendance à réélire le candidat sortant et qu'à cet égard, la variable du bonheur est encore plus importante que le taux de chômage et celui de l'inflation. C'est peut-être quelque chose à méditer pour...
Je crois qu'on va envoyer ça à tous nos dirigeants.
Ben voilà, il y a ceux qui ont peut-être des élections à venir pour 2018. Avant qu'on se quitte, Éric Scholl, il y a un chiffre que vous avez voulu retenir, un chiffre qui sera sûrement l'un des chiffres de l'année 2018, en tout cas pour The Economist et courrier international.
Oui, 10 millions de Tanzaniens qui vont recevoir des médicaments ou des tout type de médicaments par drone. Et c'est en 2018. Et c'est ça, c'est quand on parle de médicaments, c'est des produits sanguins, c'est des produits antivénéneux. C'est le progrès dans des régions qui en ont formidablement besoin. Et grâce à des petits drones qui pèsent à peine quelques kilos, qui peuvent transporter des petites charges utiles d'un kilo et demi. Et on imagine ces poches de sang se balader dans le ciel de Tanzanie et arriver là où elles doivent être données pour des patients qui en ont besoin. C'est formidable.
Bah écoutez, puisque j'y suis moi aussi, je vais choisir mon chiffre 2018. Après tout, 18 000 milliards, c'est le revenu total des femmes dans le monde. Et je vous le dis parce que ce revenu était de 13 000 milliards en 2013. Preuve que les choses finalement progressent. Mais c'est vrai que 2017 et peut-être 2018 a aussi été l'année des femmes. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs tout à l'heure avec Sylvie Kaufmann dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Éric Scholl.
Merci.
Le Monde en 2018, Courrier International et The Economist. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde avec la Vierge de Guadeloupe et au Mexique, bien plus qu'une histoire de croyance, vous allez comprendre. À suivre aussi Trump saison 2 et Marco Voltaire qui a regroupé, quelques-uns des tweets 2017 les plus dingos, disons-le, du président américain. Et puis Eva Bettan, bonsoir.
Bonsoir.
Le cri du cœur ce soir, je ne suis pas une sorcière, dites-vous.
Non, elle s'appelle Shula, elle aurait préféré être juste une petite fille.
Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ne descendez pas en marche, le tour du monde continue. IBI sur France Inter, I wanna be like you. Sur France Inter et dans Un jour dans le monde, I wanna be like you.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Terra de la Tula.
Desservi Prispo.
60 minutes.
Virginie Pironon est là sous les radars, l'info internationale des recoins de la planète. Virginie, on commence ce soir avec cette histoire incroyable. Le tout dernier homme sur Terre a parlé, le Toshiro.
C'est un reportage du New York Times d'une grande tristesse qui interroge beaucoup, Fabienne, sur le mécanisme qui peut amener à la disparition d'une langue. Il s'appelle Amadeo, dernier survivant de sa tribu qui vivait autrefois dans la jungle dans les confins du Pérou, le long du fleuve Amazone. Un clan décimé peu à peu par la maladie. Amadeo, qui a vécu comme un marginal avec des problèmes d'alcoolisme, n'a plus parlé Toshiro depuis la mort de son frère il y a 20 ans. Aujourd'hui installé dans le petit village d'Intuto, il tente, tant bien que mal, de ne pas oublier.
Madre, Igno, Padre.
Les traductions des mots père, mère consignés dans un cahier à spirale. En travaillant avec Amadeo, des linguistes ont réussi à sauvegarder une base de 1500 mots, 27 histoires et 3 chansons. C'est une course contre la montre qui commence. Amadeo, vieil homme aujourd'hui, a bien eu 5 enfants, mais ils n'ont pas vécu avec lui. Il ne leur a donc pas transmis cette langue. Pour la première fois cette année, le ministère de la Culture péruvien a décidé d'entamer un travail avec ce dernier survivant pour que sa langue ne soit pas définitivement oubliée.
Amadeo Garcia Garcia Nianuhua Ui Atondutua Taushiro Ui.
Je m'appelle Amadeo Garcia Garcia, je suis Toshiro. Et quand je quitterai cette terre, j'espère que le monde se souviendra de nous. Il reste aujourd'hui, Fabienne, un peu plus d'une quarantaine de langues indigènes au Pérou.
Allez, en République démocratique du Congo, la fin d'une année très agitée.
Oui, agitée. Agitée comme ça, comme le montre une vidéo postée sur Twitter. Cloche des paroisses, klaxons, vous êtes là, ont retenti jeudi dernier pendant quelques minutes dans plusieurs quartiers de Kinshasa à l'appel de l'église catholique qui demande aux prêtres de faire sonner les cloches tous les jeudis pour demander le départ du président Joseph Kabila. L'église réclame l'application de l'accord dit de la Saint-Sylvestre, signé l'année dernière, qui prévoit un partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition jusqu'aux prochaines élections qui devaient avoir lieu au plus tard en cette fin d'année. Pas vraiment du goût du parti de la majorité présidentielle, l'Union nationale des nationalistes, dirigée par Willy Michiki. Willy Michiki qui déclare avoir déposé plainte pour tapage nocturne. Un responsable de son parti aurait fait, dit-il, une crise cardiaque suite à tout ce bruit. Information rapportée par nos confrères de RFI, un des doyens de l'église catholique de Kinshasa, l'abbé Vincent Tchamba, convoqué pour la deuxième fois aujourd'hui par la justice. Fin d'année compliquée, on vous disait, en République démocratique du Congo, où la loi électorale qui vient d'être promulguée par le président Kabila est très contestée.
Allez Virginie, on termine avec la Russie qui demande très sérieusement des explications après le blocage des comptes Facebook et Instagram du président tchétchène.
Et ça ne manque pas de sel, hein, Fabienne, après une année marquée par l'affaire de l'ingérence russe dans la présidentielle américaine. Le président tchétchène, le très controversé Ramzan Kadyrov, friand des réseaux sociaux, n'a plus de compte Facebook et Instagram depuis samedi. Ils ont été supprimés. Oh mince alors, on ne pourra plus voir ça par exemple. L'année dernière, Ramzan Kadyrov avait suscité la controverse en postant cette vidéo de ses trois fils âgés de 8 à 10 ans combattant tête et main nue dans un tournoi très violent d'arts martiaux. Mais rassurez-vous, il postait aussi des photos de lui avec son petit chat très mignon, plus bizarre avec un tigre ou un crocodile, ou plus officiel avec le président russe Vladimir Poutine. En tout cas, pour Ramzan Kadyrov, Facebook, 750 000 abonnés, et Instagram, 3 millions, deux fois plus que la population tchétchène, c'est énorme. C'est bel et bien terminé. Le protégé du Kremlin accuse le gouvernement américain d'avoir fait pression. La semaine dernière, le président tchétchène a été sanctionné par les États-Unis pour des accusations d'exécution, de torture ou de disparition.
Eh bien, il s'en passe des choses sous les radars. Virginie Pironon, d'Un jour dans le monde, merci.
Konnichiwa.
France Inter.
A Konku Tolo.
A Bombeshbayo.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et c'est au Mexique que nous sommes ce soir pour le reportage d'Un jour dans le monde. Au Mexique, mais pas n'importe où, au milieu des pèlerins, des milliers de pèlerins venus célébrer le 486e anniversaire de l'apparition de la Vierge de Guadeloupe. Et le gros moment, c'est au début du mois, mais les festivités se poursuivent jusqu'au 6 janvier, la fête des rois. Bonsoir Emmanuel Stiles.
Bonsoir Fabienne.
Emmanuel, rappelons quand même que le Mexique, c'est le plus grand pays catholique du monde et cette Vierge, c'est bien plus qu'une croyance, c'est un symbole national, c'est le symbole de la patrie mexicaine et on va comprendre pourquoi grâce à vous.
Viva Oaxaca !
Viva !
Viva la Virgen de Guadalupe !
Ces apparitions au début de la conquête espagnole du Mexique serviront à la conversion massive des Indiens. Aujourd'hui, la Vierge Morena, la Vierge Brune, est vénérée par tout un peuple qui se dit plus volontiers guadalupano, adepte de la Guadalupe, que catholique. Certains pèlerins parcourent les derniers mètres à genoux, comme ce jeune homme qui grimace de douleur en portant une statue géante de la Vierge. J'ai promis à mon père, qui est mort récemment, que je viendrai à genoux rendre visite à la Vierge, raconte Angel. Originaire de la région de Veracruz, dans l'est du Mexique, il a mis 3 jours pour arriver. Une seule journée de marche a suffi à Martine et Josefina, qui ont fait la route avec leur petite fille de 4 mois dans les bras depuis la banlieue de Mexico. Ses parents avaient promis à la Vierge de Guadalupe de venir la remercier en personne et de lui présenter le bébé s'il naissait en bonne santé. La Guadalupe a aussi ses pèlerins assidus, ceux qui viennent chaque année. C'est le cas d'Eric, un jeune venu de Cholula, au sud de Mexico. Sa famille l'a emmené il y a 12 ans pour la première fois. Depuis lors, ce pèlerinage est un pilier dans sa vie.
On a froid, on souffre, mais c'est beau. Chaque année, c'est une envie renouvelée d'y participer, en marchant, c'est le plus important.
Viva Santa Maria de Guadalupe!
Première étape, lorsque les pèlerins arrivent à la basilique, s'approcher de l'image de la Guadalupe qui se trouve derrière l'autel. L'histoire dit que c'est la tunique de l'Indien Juan Diego sur laquelle se serait miraculeusement imprimée la Vierge qui lui était apparue sur le mont Tepeyac. Protégée par une vitre blindée, la tunique s'observe depuis 4 tapis roulants qui permettent de faire défiler les pèlerins en continu et d'éviter les encombrements. Avancez, ne vous arrêtez pas, crient sans cesse les gardes de la basilique. Rares sont les pèlerins qui n'ont pas une statuette en main ou une vitrine sur le dos. La croyance veut qu'en amenant ces figures sur le lieu des apparitions, ils introduiront un peu de l'aura de la Guadalupe dans leur foyer, une émanation du miracle.
Por intercesión de Santa María de Guadalupe, que bendiga.
La ferveur autour de cette figure va au-delà d'une simple croyance religieuse, comme l'explique Alicia Mayer, une historienne mexicaine installée au Canada.
À l'époque coloniale, la Vierge de Guadalupe devient un symbole de la patrie naissante. Et comme elle est originaire d'Amérique, elle devient un étendard de la lutte pour l'indépendance. Et plus tard, elle est aussi récupérée comme bannière de la révolution paysanne par Zapata. La Vierge transcende la sphère religieuse et devient une composante de la mexicanité.
Dans les foyers mexicains, il y a davantage d'images de la Vierge de Guadalupe que de crucifix. Et tous les jours, charrient leurs lodouailles qui disent apercevoir le manteau vert auréolé de lumière dans une flaque d'eau, dans un reflet ou au fond d'une casserole.
Emmanuel Cis à Mexico pendant les célébrations de la Vierge de Guadalupe pour un jour dans le monde.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actu en série le mercredi, Trump saison 2 et Marco Voltaire. Bonsoir Marco.
Bonsoir.
Marco, Donald Trump passe les fêtes dans sa résidence de Floride, ça c'est pas une surprise. Et voilà qu'il se vante d'avoir sauvé l'expression Merry Christmas, donc joyeux Noël.
Oui, pareil réussi pour Trump. Depuis la campagne, il expliquait à ses supporters que Noël était menacé, comprenait que la tradition chrétienne était en danger, qu'on voulait interdire aux Américains et à la Maison Blanche de dire Merry Christmas. Écoutez.
D'autres gens peuvent avoir leur jour de fête, mais Noël, c'est Noël. Je veux pouvoir dire joyeux Noël. Vous vous souvenez de l'expression quand on disait encore Merry Christmas? Eh bien, on ne l'entend plus nulle part.
Voilà, ça c'était en 2015 et donc ce 24 décembre, il a tweeté « Je suis fier d'avoir combattu l'assaut mené contre notre belle phrase ». Ce jour-là, un groupe privé qui soutient Trump a même diffusé une publicité à la télé.
Thank you, President Trump, for letting us say Merry Christmas again.
Voilà, merci Président Trump et d'une petite fille de nous laisser à nouveau dire Merry Christmas. Coût de l'opération, $1 million. Et à la fin, en fait, c'est une belle manipulation politique puisque avant Donald Trump, Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, tous ont toujours souhaité un Merry Christmas aux Américains.
Allez, pas de trêve des confiseurs pour l'activité tweet du président américain. Du coup, Marco, vous nous offrez une sorte de florilège de Trump 2017 sur Twitter. Best of en bon français.
Oui, pour la statistique, Donald Trump a tweeté environ 2500 fois cette année, en 2017. Et voici badaboum le tweet le plus retweeté, donc le plus relayé par les internautes. What's going to happen? C'est le fameux tweet de la vidéo de catch dans laquelle Trump écrase le logo de la chaîne CNN à côté d'un ring. Et il en a d'ailleurs remis une couche juste avant Noël en relayant cette fois un photomontage dans lequel on voit le logo de CNN écrabouillé et en sang collé sous la chaussure de Trump.
Voilà, ça non plus, c'est pas une surprise. Le thème des fake news et CNN pour le plus retweeté. Quel est cette fois le tweet le plus liké par les internautes?
Le plus liké est un tweet sur Kim Jong-un, Rocketman, hein, vous l'avez dit, comme l'appelle Trump. Et je vous le lis. Pourquoi est-ce que Kim Jong-un m'insulte en disant que je suis vieux alors que jamais je le traiterai de petit et de gros? Voilà, plus de 600 000 j'aime pour ce tweet à forte teneur diplomatique.
J'aime bien quand vous dites tweet. Et puis il y a aussi les tweets qu'on n'a pas vraiment compris et qui font partie du best-of aussi, Marco.
Oui, il y en a un tweet qui a créé la sensation tellement il ne voulait rien dire. C'est celui qui se termine par le mot covfefe, C-O-V-F-E-F-E. Selon Trump, la presse est covfefe. Alors, c'est peut-être une fausse manipulation du téléphone, mais du pain béni. Hein, pour devenir un classique du web, le monde internet a spéculé sur la signification, a détourné l'expression. C'est donc beaucoup amusé. L'ancien porte-parole, hein, là, c'est devenu sérieux, de la Maison Blanche, avait expliqué que Donald Trump et une petit groupe de gens avaient compris ce que voulait dire covfefe. Mais pour nous, le mystère reste entier.
Allez, pour finir, l'histoire d'un arbre, et pas n'importe quel arbre, c'est un magnolia bicentenaire qui trône devant la Maison Blanche et qui va être en partie abattu sur ordre de Melania Trump.
Et ce n'est pas parce que Michel et Barack Obama y ont gravé un petit cœur, cet arbre qui se trouve côté sud de la Maison Blanche, à côté du grand balcon, menace tout simplement de tomber. Il avait été planté sous le 7e président des États-Unis, Andrew Jackson. C'était il y a presque 200 ans, jusqu'en 1998. Et pendant 70 ans, on a vu cet arbre sur les billets de $20. Ici, vous imaginez aussi les milliers de photos officielles sur lesquelles trône ce magnolia. Mais à la fin, c'est peut-être une image de l'histoire américaine qui disparaît, mais c'est une bonne nouvelle pour les journalistes qu'on plaçait régulièrement près du magnolia, comme quoi Donald Trump est peut-être quand même, disons, une sorte de Père Noël.
Allez, à voir, Marc Voltaire, merci beaucoup, et covfefe à vous aussi, tiens, allez, Paul McCartney là, Band on the Run. compris, je crois. Band on the Run, signé Paul McCartney sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Vous êtes un peu moqueuse, Eva Bétan. J'ai bien noté ce petit ricanement. Sur votre balai ce soir, jetant des sorts maléfiques. Ah ben tiens, voilà.
Paul McCartney, non.
Par exemple, je ne suis pas une sorcière. I'm not a witch, c'est le film de ce soir. La réalisatrice, s'appelle Naomi Rungano. Mm-hmm. Elle est née en Zambie, elle a grandi au Pays de Galles, elle s'est inspirée d'une réalité plutôt mal connue à l'extérieur de son pays de naissance pour essayer de faire un film qu'elle a monté un peu en forme de conte, en fait.
Écoutez, je vais vous dire, c'est un film formidable, c'est très simple, c'est un film qui a la grâce, voilà. C'est un conte, effectivement, qu'elle a imaginé sur une base de vrai.
Et on écoute la bande-annonce avant
allons-y,
de continuer.
Avant que je continue.
Donc un conte, Eva, vous disiez, sur une base de vrai.
Oui, sur une base de vrai. Des contes, ça a la liberté, ça a la cruauté aussi, ça a la morale. Il y a le fort et le faible, il y a le bouc émissaire, il y a le prix de la liberté. Une fillette de 9 ans est accusée par son village d'être une sorcière. C'est-à-dire que ce qui arrive de mal dans le village, c'est à cause d'elle. Et on l'envoie dans un camp de sorcières. Où elle est la seule enfant, il n'y a que des dames d'un certain âge qui vont dans la journée travailler dans les champs, puis elles rentrent le soir au camp. Quand je vous disais un conte, ça permet des inventions visuelles, mais qui sont aussi des symboles. Ces femmes et la petite fille sont tenues par un ruban dans le dos. Un ruban qui symbolise l'enfermement. Mm-hmm. Elles pourraient le couper, le ruban. Mais le couper, c'est la liberté, c'est dangereux quand vous allez être jeté de partout à l'extérieur. Alors la réalisatrice est allée faire un séjour dans un camp de sorcières, parce qu'il en existe, en Zambie et en Ghana. Voici de quoi elle s'est inspirée.
Dans tous les camps, y compris ceux en Zambie, cela se passe comme cela. Une femme est accusée d'être une sorcière, elle ne peut plus vivre dans son village, sinon elle va recevoir des menaces. Elle pourra être blessée ou tuée. Donc, elle part ailleurs. En Zambie, ce qui se passe, c'est qu'un chef prend ses femmes en charge et elles travaillent pour lui gratuitement. C'est pareil au Ghana, on leur offre un abri, un refuge sûr, mais on leur dit qu'en échange de leur sécurité, elles doivent travailler gratuitement, devenir des sortes d'esclaves.
J'ai lu quelque part que le Ghana voulait supprimer ces camps de sorcières, voulait les interdire.
Oui, ils essayent de le faire depuis longtemps, mais ce n'est pas facile. J'ai séjourné dans un de ces camps, aux côtés des membres d'organisations humanitaires locales qui essayent d'arranger les choses. Ils ont fait un travail d'explication dans les communautés. Ils ont dit aux gens que cela n'avait rien à voir avec des croyances, que ce qu'ils faisaient à ces femmes, c'était de la discrimination envers des personnes vulnérables. Donc ils font ce travail avec le groupe, les femmes rentrent chez elles, mais dès qu'un problème surgit dans le village, l'accusation se porte sur ces femmes.
Ça veut dire que même si le gouvernement ghanéen veut les interdire, ça ne changera pas les choses vraiment?
Non, parce que dans la plus grande partie de l'Afrique, déjà l'accusation de sorcellerie est interdite. La loi interdit d'accuser une femme d'être une sorcière, mais les gens continuent de le faire.
Il n'y a que les femmes qui sont accusées d'être des sorcières, hein, pas de sorciers, pas d'hommes d'accusés de sorciers. Et donc, il y a aussi une réflexion sur comment on se comporte vis-à-vis des femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Zambie, donc, il y a des camps de sorcières, et la Zambie nous explique, la réalisatrice, un pays où les femmes ont plutôt un rôle fort.
Je voulais parler des contradictions concernant les femmes que l'on rencontre en Zambie. Ma tribu y est la plus importante et c'est un matriarcat. Donc, d'un côté, les femmes sont très fortes, elles travaillent, elles peuvent embrasser les carrières qu'elles souhaitent. Il y a des femmes dans la police, dans l'armée, ça n'a jamais été un problème. Mais d'un autre côté, il y a des règles sociales qui existent et qui vous définissent en tant que femme. Vous devez vous marier à un certain âge, vous devez avoir des enfants. C'est intéressant de voir ces contradictions qui existe dans ma culture et probablement aussi dans d'autres cultures.
Ça s'appelle I'm Not a Witch. Eva, vous nous rappelez le nom de la réalisatrice?
Oui, elle s'appelle Naomi Rungano.
Et voilà, merci beaucoup. On reste sur le thème des femmes, tiens. Avec l'édito du journal Le Monde et Sylvie Kaufmann dans Un jour dans le Monde. Bonsoir Sylvie. 2017, année agitée, donc surtout pour les femmes.
Oui, pour les femmes, cette année a été placée sous le signe de la colère. Elle couvait cette colère. On l'avait sentie monter pendant la campagne électorale américaine qui, pour la première fois, avait laissé espérer la victoire d'une femme, Hillary Clinton, à la Maison-Blanche. Mais Hillary Clinton a été battue et dès le 21 janvier, au lendemain de l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis, la colère des femmes a éclaté. Ce jour-là, elles ont été des millions à manifester dans les grandes villes des États-Unis. Elles manifestaient par frustration et aussi par indignation de voir s'installer à la Maison-Blanche un homme dont la grossièreté à l'égard des femmes était connue depuis longtemps et qui s'était confirmée tout au long de la campagne. Cette colère a mijoté, puis à l'automne, elle a fini par exploser. Le détonateur, cela a été deux grosses enquêtes du New York Times et du magazine The New Yorker qui ont révélé ce que l'on appelle aujourd'hui l'affaire Weinstein, où l'on apprenait que Harvey Weinstein, le roi d'Hollywood, le producteur qui faisait la pluie et le beau temps dans le cinéma, n'était qu'un obsédé sexuel de la pire espèce qui se servait de son pouvoir pour harceler, violer les actrices ou, si elles résistaient trop, briser leur carrière.
Et donc cette affaire a constitué un tournant, Sylvie, pour les Américaines.
Oui, un vrai tournant, car non seulement des actrices et des travailleuses du monde du spectacle se sont mises à témoigner contre lui, mais à partir de ce moment-là, les femmes ont cessé d'avoir peur de raconter le harcèlement. Le hashtag MeToo, ou le mot dièse, comme vous préférez, s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et a servi de véhicule pour dénoncer les comportements sexistes des hommes, non plus seulement à Hollywood, mais dans les médias, dans l'industrie high-tech et jusque dans la politique. Les élus du Congrès n'ont pas été épargnés et en cette fin d'année, Donald Trump lui-même doit sentir le vent du boulet, car le candidat qu'il soutenait dans une élection partielle en Alabama a été battu. Ce candidat avait une particularité, celle d'avoir été accusé d'avoir abusé de jeunes filles. Et lui aussi, MeToo l'a tué.
Alors, est-ce que ce grand déballage, c'est un peu la question à 1000 dollars, sert à quelque chose ? Est-ce que les comportements vont réellement changer ?
C'est évidemment la grande question. Sommes-nous en présence d'un phénomène spectaculaire, certes, mais éphémère, ou bien d'un bouleversement profond qui va changer la donne des rapports hommes-femmes ? J'aurais tendance à dire qu'il sera difficile de faire comme si rien ne s'est passé. Le mouvement MeToo a traversé les frontières et les océans. Il est arrivé jusqu'à nous, oui, jusqu'à nous, en France. Bref, il a secoué les esprits. Mais pour qu'ils parviennent vraiment à modifier les comportements, il ne faut pas s'arrêter là. Mettre fin à un système qui fait que trop d'hommes se croient permis de profiter de leur position dominante pour agresser ou harceler des femmes, c'est une lutte de longue haleine qui demande la mobilisation de toutes les femmes, bien sûr, mais aussi des hommes. MeToo, au bout du compte, n'est qu'une étape dans le long combat pour l'égalité des hommes et des femmes, mais c'est une étape importante.
Sylvie Kaufmann, et comment, du journal Le Monde. Merci beaucoup. Le 18-20 de France Inter continue avec le journal de Laurence Thomas. Et puis le téléphone sonne.